Bienvenue dans Hacker News Daily, votre émission quotidienne sur Brie Radio. Je suis Claire Martin, et avec mon collègue Nicolas Moreau, nous vous proposons aujourd'hui un tour d'horizon anthropique qui semble tester des niveaux d'effort réduits dans Claude Code, les raisons pour lesquelles votre modèle de langage local peut sembler moins brillant qu'il ne l'est vraiment, et la stratégie présumée de Meta, résumée comme « appâter, retenir, exploiter et dissimuler », détaillée dès la première semaine.
Nous aborderons aussi la réponse du Canada aux tarifs douaniers américains, une nouvelle feuille de route pour le protocole MCP et quelques pépites de la communauté, dont une introduction à Raquette et l'histoire d'un vendeur de voitures belge devenu prince. Restez avec nous.
Un développeur qui utilisait Claude Code a observé une baisse d'effort dans les réponses du modèle et la discussion sur Hacker News pointe surtout les incitations économiques. Le point de départ, c'est un constat d'Anthropic qui testerait en AB une réduction du niveau d'effort dans Claude Code, donc certaines versions du produit donnerait des réponses moins approfondies selon l'utilisateur.
Et les réactions vont au-delà de ce simple test. Un commentateur soulève qu'il y aurait d'autres optimisations en coulisses, notamment sur les limites d'utilisation, on parle de rubber banding, c'est-à-dire ajuster la sévérité de ces limites, et aussi sur le routage, où la requête serait orientée vers un modèle différent en arrière-plan. Il juge que les incitations sont trop fortes pour ne pas le faire.
Cette méfiance traverse tout l'écosystème des API de modèles. L'abonné craint que sa requête ne soit pas traitée par le modèle et au niveau d'effort qu'il a réellement payé. Rien n'est confirmé de la part d'Anthropic. C'est un soupçon qui circule, mais la mécanique décrite est crédible. Quand un fournisseur contrôle à la fois le routage, les limites et le niveau d'effort, il a techniquement les moyens d'optimiser ses coûts d'une manière invisible pour l'utilisateur. Autre sujet, toujours issu de la communauté, un fil de discussion du forum Level & Tech demande pourquoi nos LLM locaux semblent plus bêtes qu'ils ne le sont réellement. Un utilisateur témoigne avoir installé QN, le modèle 27 milliards de paramètres en version MLX, sur son MacBook Pro et dit être franchement impressionné par à quel point il n'est pas bête.
Sa réponse déclenche une contre-question très concrète, est-ce que ça chauffe beaucoup sur un MacBook Pro M4 Pro ? Ce problème de température revient souvent quand on fait tourner un modèle localement, et les utilisateurs de puces Apple Silicon connaissent bien cette expérience. On juge ainsi souvent un modèle local plus sévèrement, alors que la puissance de calcul disponible est limitée par rapport au serveur et qu'en plus la chaleur devient un facteur à gérer.
The first week of Meta's trial over children's privacy has reportedly laid out the company's alleged playbook, and one Hacker News commenter boiled it down to four words: hook, hold, harvest and hide. That framing comes straight from reporting in The Guardian, which is covering the trial as it unfolds. The idea is that Meta's strategy moves through capturing attention, keeping users engaged, collecting their data, and then concealing what the company actually does with it. And the allegation is that this conduct specifically targeted children.
And the Hacker News thread around that story was not measured in tone. One commenter wrote that more CEOs need to go to prison. And another pointed to China arguing that the country does one thing well, namely holding people who damage their society accountable. Both comments are reactions to the same underlying claim, that senior executives knowingly allowed harmful design aimed at minors. It's fury, but it's also a pointed contrast. Open up the archive link shared in the thread, and the full Guardian piece is right there, detailing exactly how the prosecution says all four stages operated in that opening week.
What's striking is how quickly the discussion turns from the legal specifics to the question of personal responsibility. The phrase hook, hold, harvest, hide is doing a lot of work in that thread because it reframes what could be dismissed as abstract corporate behavior into a deliberate sequence of decisions. And when commenters start naming executives rather than the company, they are treating the trial as evidence that individuals, not just Meta as an entity, should answer for the design choices exposed over those first days.
There is a real open question hanging over all of this, though. The trial has just begun, the claims have been laid out, but none of that is a verdict. The thread captures how skeptics expect the evidence to land, while the actual outcome, whether anyone ends up accountable, and in what form, remains to be decided in the weeks ahead.
Canada has suspended trade negotiations with the United States and announced it will match American tariffs dollar for dollar. The statement came from Prime Minister Carney's office on the 21st of August, and the framing in Ottawa is deliberate. The government is matching every US tariff, an approach that Hacker News commenters note the US had considered essentially unthinkable as a response.
The tone of the discussion is sharp, and a lot of it hinges on how quickly the relationship shifted. One commenter summed it up as very good yesterday, very bad today, and said they understood completely why nations are not eager to bargain with a petulant child. Another quipped that the art of the deal strikes again. So you get this portrait of a breakdown that people in the thread read as personal. US Trade Representative Peter Greer keeps pointing out that only Canada and China retaliated. And critics in the thread are baffled by that framing. Because they read it less as a criticism of Canada, and more as a strange way to describe two countries that refuse to accept the tariffs lying down.
And there's a genuinely contested point underneath all that. Some commenters treat Greer's repeated emphasis on Canada and China as retaliation as proof that the US miscalculated, since the matching response is exactly what makes the strategy costly. Others read the tariff-for-tariff pledge as a gamble that will weigh on Canadian consumers as much as on American exporters. What nobody in the thread disputes is the core mechanism. The talks have broken down, Ottawa has committed to mirroring every American tariff, and that position is now the baseline any future negotiation has to start from. Le projet Modèle Contexte Protocole a publié une feuille de route et une de ses priorités annoncées est ce qu'on appelle la découverte progressive. Un serveur peut d'abord offrir un petit point d'entrée, puis révéler une plus grande partie de son catalogue seulement quand la conversation se précise.
Un développeur dans la discussion ne cache pas son agacement. Il explique qu'il a déjà dû lui-même mettre en place le chargement différé de ses MCP dans plusieurs de ses environnements, et qu'au lieu de suivre cette nouvelle feuille de route, il passe maintenant à une approche où tout est écrit en code.
Sa remarque pointe vers une dynamique intéressante. Pour lui, la fonctionnalité arrive trop tard, puisqu'il a déjà trouvé sa propre solution. La question qui reste en suspense, c'est de savoir si la proposition officielle du protocole finira par converger avec les pratiques que les développeurs ont déjà mises en place eux-mêmes. Une publication sur Hacker News au sujet de macOS 27 Golden Gate annonce la dépréciation de l'outil en ligne de commande HDI utile, mais en renvoyant vers l'article source, un obstacle s'impose au lecteur, la page affiche une erreur, précondition non satisfaite, et le correctif proposé est simplement de cliquer sur un lien pour réinitialiser la limite de débit de la requête.
Dans la discussion, un commentateur reprend la conclusion de l'article et expose la contradiction. Il ne comprend pas pourquoi HD utile doit être déprécié alors que la même fonctionnalité est conservée dans disque utile. Il ajoute qu'Apple semble déterminé à casser les flux de travail et les scripts de longue date, et que chez elle, toute rétrocompatibilité n'est que purement accidentelle.
D'autres commentaires contestent franchement cette lecture. Un participant estime au contraire qu'Apple a plutôt bien fait les choses. Il utilise encore un MacBook Air âgé de 12 ans. Certes, plus tout à fait à jour et qui ne fait pas tourner toutes les applications, mais qui reste pour lui une expérience Apple correcte. Son ancien iPad, ajoute-t-il, a aussi été mis à jour bien plus longtemps que prévu.
Mais un autre intervenant rétorque que cet appareil vieillissant ne peut plus faire tourner les versions actuelles d'aucune application, y compris Chrome, Edge et Safari, alors que le matériel, pourtant parfaitement fonctionnel, pourrait exécuter une version prise en charge de Windows ou de Linux. Sa demande, qu'il sait lui-même peu probable d'aboutir, c'est une version du système d'Apple comparable à une édition, disons à long terme, à la façon d'une version LTSC. Et c'est précisément ce qu'il ne verra jamais arriver.
Un sujet qui revient sans cesse quand Racket est évoqué sur Hacker News, c'est la quête d'applications. Un commentateur confie ainsi chercher en vain des applications intéressantes à explorer dans cet écosystème, puisqu'il ne trouve surtout que des bibliothèques et des outils de développement, comme le recense le site Awesome Racket. Pourtant, un autre participant à ce fil répond à cet agacement en signalant Remember, un service accessible sur remember.defend.io qu'on peut tester et qui constitue une piste concrète au-delà des bibliothèques. Un vendeur de voitures belge de 26 ans, Clément Van den Kerkhove, vient d'être reconnu prince après qu'un test de paternité a confirmé que son père biologique est le prince Laurent, frère du roi Philippe. Sa mère, une chanteuse belge qui a eu une relation avec le prince Laurent dans les années 90, ne lui a révélé l'identité de son père qu'à ses 16 ans. La reconnaissance a eu lieu lors d'une discrète cérémonie à la maison communale il y a environ 6 mois, après qu'un test ADN a prouvé son lien avec la famille royale, et la nouvelle a émergé cette semaine.
Le prince Laurent, âgé de 63 ans, a enregistré sa paternité au registre civil belge, a rapporté The Telegraph mercredi. Cette reconnaissance donne à Van den Kerkhove des droits d'héritage égaux sur le patrimoine privé de Laurent à ceux de ses demi-sœurs et demi-frères. La princesse Louise, 20 ans, et les princes Nicolas, 20 ans, et Aymeric, 19 ans. Les enfants que Laurent a eus avec la princesse Claire, qu'il a épousée en 2003.
Laquelle reconnaissance n'implique en revanche ni allocation royale, ni fonction officielle, ni droit au trône de Belgique. Il pourrait prendre le nom de famille de son père, Saxe-Coburg. Mais il a dit qu'il pourrait ne pas le faire, estimant que sacrifier le nom Van den Kerkhove, dont il est fier, serait une trahison. L'article rappelle aussi le précédent de la princesse Delphine, fille secrète de l'ancien roi Albert II, qui a obtenu le droit de se faire appeler princesse. On a parlé de l'effet des niveaux d'effort réduits que Anthropic pourrait tester dans Claude Code et de pourquoi un modèle local peut sembler moins intelligent qu'il ne l'est vraiment. Merci de nous avoir suivis dans ce tour d'horizon.
Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine discussion et n'hésitez pas à nous partager vos propres observations en attendant.
À très vite.